J'aimerais que nous lisions un extrait de 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, et j'aimerais lire le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous ne voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je relis. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. L'apôtre Paul vivait une situation assez délicate à l'époque. Je dirais, il expérimentait ça assez souvent durant son ministère, à savoir les coups, les trahisons, le martyr, je dirais physique, hein, les naufrages, les disettes. Parfois, il vivait dans l'abondance, mais parfois, il manquait de nourriture. Il était fouetté, il était abandonné à l'entrée ou à la sortie des villes. C'était un beau missionnaire, mais c'est un missionnaire qui a énormément souffert dans son corps, et puis aussi, évidemment, dans sa vie spirituelle, à travers l'abandon, la solitude, les trahisons qu'il a pu expérimenter. Et là, il est en train de parler d'un principe très intéressant et que nous devons garder à l'esprit si nous voulons avancer dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, par définition, et je parle d'un point de vue humain, là, d'un point de vue naturel, la vie chrétienne n'est pas naturelle. C'est contre nature. On obéit à des principes qui sont différents de ce que nous pouvions vivre auparavant. Ce qui fait que si on ne fait pas attention et si on reprend des habitudes naturelles, on risque de perdre quelque part la vision de ce que signifie vivre l'appel céleste. Et déjà, j'aimerais m'attarder sur une définition, voire même une contradiction apparente que Paul est en train de d'écrire ici. Il parle d'abord du fait qu'il gémit. Alors le verbe gémir là ne signifie pas que il était en train de prononcer des mots, des grognements et que voilà, il a, ou des râles. Il associe en fait le verbe gémir aux persécutions qu'il traversait. En fait, c'est une figure de style, hein, c'est ce qu'on appelle en français une métonymie. Une métonymie, c'est quand vous utilisez une illustration pour parler de quelque chose de vrai, ou une figure plutôt. Vous utilisez une figure pour parler d'un concept qu'il y a derrière. Et là, le contexte dans lequel il écrit, c'est la persécution, la souffrance. Et cette persécution, cette souffrance, là, il la décrit comme étant un gémissement, c'est-à-dire les conséquences de tout ce qu'il traverse. Il dit « je gémis ». Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il se plaint, ça ne veut pas dire qu'il est déprimé, tout simplement il subit des situations difficiles, il est persécuté. Et là il dit « tandis que nous sommes dans cette tente », là aussi c'est une figure de style, la tente parle en fait du corps dans lequel nous sommes, ce qui est apparent, ce qui est visible, ce qui enferme l'âme et l'esprit. Il dit « tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. » Et ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant, parce que il utilise là deux verbes très différents, se dépouiller ou se revêtir. Et parfois, c'est quand on parle là du dépouillement, très souvent, dans le langage chrétien, on parle d'oublier sa propre vie, on fait référence à Philippiens chapitre 2, où Jésus-Christ s'est dépouillé de sa divinité pour se revêtir de la nature humaine. Donc on parle du dépouillement comme une autre façon de parler du fait de prendre sa croix, ou de s'oublier soi-même, ou de donner sa vie. Mais là, dans ce contexte, le verbe dépouiller n'est pas positif, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce que Paul veut dire là, c'est que nous vivons des situations difficiles, et ce que nous aimerions, nous, c'est nous débarrasser de ces situations difficiles, c'est de les enlever. On aimerait se dépouiller de cela. Et c'est pas ce qu'il écrit ici. Il dit, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Et là, il parle de quelque chose d'extérieur qu'il va prendre sur lui. Et se revêtir, là, c'est revêtir Christ. C'est se revêtir de la vie de résurrection. C'est pour ça qu'il termine en disant « afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie ». Mais si on réfléchit un petit peu à la fin de cette phrase, « ce qui est mortel soit englouti par la vie », en réalité, naturellement, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on réfléchit un petit peu à l'existence et à la vie, c'est la mort qui engloutit la vie. Nous sommes vivants pour un temps, et puis un jour, la mort engloutit la vie. C'est la vieillesse qui engloutit la jeunesse. C'est la maladie qui engloutit la bonne santé. En d'autres termes, la chute et la corruption font que ce qui est mauvais, ce qui est douloureux, gagne toujours à la fin. On est noyé sous le péché, on est noyé dans la désolation, on est englouti par la chair, et on gagne jamais. Et c'est pour ça que parfois on aimerait se dépouiller de ça, on aimerait l'enlever, on aimerait le faire partir, tout cela. Mais c'est pas la vie chrétienne telle que Paul l'a décrit dans ce passage. Dans ce passage, il ne parle pas d'enlever les choses, mais de se revêtir d'autres choses. Et ce qui fait qu'il propose une solution, il décrit en fait un principe dans la vie chrétienne, qui, comme je le disais tout à l'heure, contre nature. C'est que, en général, la mort engloutit la vie, mais là, c'est la vie qui va engloutir la mort. Et c'est écrit, hein, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, la mort engloutit sa première vie, sa première existence. Mais après, la vie de résurrection a englouti la mort. Et Jésus est ressuscité. Ce qui fait que le chrétien, lui, doit garder le cap et fixer les yeux sur la vraie espérance. C'est-à-dire que l'espérance n'est pas dans l'éradication de certaines choses. Lorsque nous serons au ciel, à un moment donné, tout sera éradiqué. La nature pécheresse ne sera plus là, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de souffrances. L'Apocalypse nous dit plus de mort. Donc il n'y aura plus tout ça. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont, et là je parle dans notre expérience, elles ne vont pas forcément partir. Elles ne vont pas forcément s'en aller. Elles ne vont pas forcément disparaître. Parfois oui, parfois non. Il y a d'abord des principes naturels qui, eux, ne disparaîtront pas. C'est-à-dire qu'un chrétien, il peut prier ce qu'il veut, mais qu'il prie pour être guéri d'une maladie, Dieu peut intervenir sans aucun problème. Par contre, il peut toujours essayer de prier pour rajeunir, Dieu répondra pas à cette prière. C'est que la mort va engloutir la jeunesse. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on va être désolé de cela? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a une espérance. Nous savons que, in fine, la vie va engloutir la mort. Et ce qui fait que la vie chrétienne consiste non pas d'essayer de contrôler les choses, de freiner les choses, ou de revenir en arrière, ou d'essayer de se débarrasser de certaines choses, c'est de se revêtir de la provision divine. C'est de se revêtir de ce que Dieu a à nous offrir. Et c'est cela, revêtir Christ, en fait. Revêtir Christ, c'est accepter d'être ce que nous sommes par la grâce de Dieu, d'accepter de continuer d'être un vase de terre, d'accepter que sa force se manifeste dans la faiblesse. C'est intéressant parce que Dieu aurait pu vouloir que parfois la force se manifeste dans la force. C'est-à-dire que nous sommes forts et puis c'est sa force qui intervient également. Ou alors que sa force intervienne sans qu'il y ait le moindre réservoir, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Si, il peut y avoir la faiblesse. Mais le réservoir de la faiblesse n'empêche pas la force de Dieu d'agir. Ce qui fait que Paul peut écrire « Lorsque je suis faible, je suis fort. Pourquoi » Pourquoi? Parce qu'il croyait que la force pouvait engloutir sa faiblesse. De la même manière qu'un chrétien peut parfois avoir des moments difficiles, soit à cause d'événements extérieurs, soit parce que intérieurement il se pose des questions, il a des soucis, son âme est malade, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et donc il peut porter une peine pendant des fois des années, mais tout en priant et en demandant que Dieu le décharge de cette peine, Ce croyant doit en attendant se revêtir de la vie de Christ pour que la vie de Christ engloutisse ce qui est présent. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Vous voyez, c'est espérer, par exemple, contre toute espérance. C'est quand l'espérance céleste engloutit le désespoir humain. C'est possible. L'homme naturel reste désespéré. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Le jour de notre mort, en réalité. Mais en attendant, grâce soit rendue à Dieu, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et la victoire en Jésus-Christ engloutit la défaite d'Adam. Engloutit la défaite de chacun d'entre nous. Et c'est cela, revêtir Christ. Et Paul dit précédemment, là j'ai lu tout à l'heure un extrait du chapitre 5, mais au chapitre 4, au verset 18, déjà il parle de cette idée-là. Il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il parle de la persécution, de ses souffrances, de ses difficultés, mais il sait que ça va disparaître. Et ce qu'il regarde, lui, ce sont les choses invisibles. Et ces choses invisibles sont éternelles. Et là aussi, nous avons une promesse et une espérance. Les choses éternelles engloutiront les choses temporelles, tout le temps. Alors bien évidemment, ça demande de notre part de faire des choix, que nous prenions nos responsabilités, de nous consacrer aux choses éternelles, parce que c'est difficile d'être englouti par les choses éternelles dans notre vécu si on regarde uniquement aux choses naturelles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, chose naturelle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, chose spirituelle. Et ces choses spirituelles vont engloutir notre maladie, notre souffrance, notre désespoir, notre solitude et nos difficultés. Et lui, dans le contexte de Paul, sa vie était en train d'être détruite en réalité. Il commençait lui aussi à vieillir, il subissait des épreuves. Dans l'Épître aux Galates, hein, il dit quelque chose de très intéressant. Il parle des stigmates qu'il avait dans son corps. Ce sont en fait les coups de fouet qu'il a pu recevoir, ou les coups de bâton, enfin toutes ces persécutions physiques qu'il a reçues. Son corps en était imprégné. Donc il devait souffrir, même dans son corps. Et là, ce que Paul vivait durant la période de la deuxième Épître aux Corinthiens, eh bien, c'était la destruction de son être. Il faisait face à la mort, il voyait la mort s'approcher, mais il voyait aussi la vie éternelle qui allait engloutir cette mort. Et ce qui fait qu'il ne vivait pas dans la crainte. Vous savez, en 2 Corinthiens 4,16, il écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » L'homme intérieur engloutissait un fait qu'il ne pouvait pas nier, c'est que l'homme extérieur se détruisait. Mais s'il regardait uniquement à ça, il y avait de quoi de déprimer. Mais il regardait à une chose invisible, c'est que l'être intérieur se renouvelait de jour en jour. Et dans son expérience, cette beauté intérieure, cet homme intérieur engloutissait ce qu'il pouvait vivre et annulait toutes les peines qu'il pouvait traverser. Au verset 11 et 12, toujours en 2 Corinthiens 4, il écrit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, il le constate, et la vie agit en nous. » Vous voyez, il peut y avoir les deux en même temps. Ça vous est jamais arrivé d'être béni par Dieu, de passer un bon moment dans le corps de Christ, d'être touché par un verset biblique, tout en expérimentant des souffrances personnelles? C'est pas incompatible. La mort agit, elle est là. Mais la solution, c'est des fois pas de l'éradiquer, parce qu'on ne peut pas. Mais c'est de croire que la vie peut agir aussi. Et c'est cette vie-là qui va faire la différence. Ce qui fait que si le chrétien ne se tourne pas vers cette vie qui engloutit le malheur, qui engloutit la culpabilité, qui engloutit le désespoir, qui engloutit l'impatience, bref, toutes les manifestations de la chair, si on ne recherche pas cette vie-là, on va essayer de trouver une solution pour se dépouiller de ce qui ne va pas. Alors, si on y arrive, tant mieux, mais quand, si on n'y arrive pas, on risque de faire des compromis vis-à-vis de la vérité, on risque de prendre de mauvaises décisions, tout simplement parce qu'on veut se débarrasser de la vie que nous avons, alors que Jésus voudrait nous proposer une autre, qui va engloutir toutes nos souffrances, qui va engloutir la vie naturelle. Et, vous savez, en Romains 8, 22-23, Paul parle de la création, il dit « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc nous avons cette espérance qu'un jour, on sera débarrassé de tout, et que tout sera définitivement, je dirais, englouti, noyé dans la vie éternelle. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Mais en attendant, nous pouvons déjà vivre les arts de cet esprit qui nous a été donné et qui nous permet de surmonter toutes les difficultés. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu abstrait, donne-nous des exemples. Ben, je sais pas, vous avez un conflit personnel avec quelqu'un, soit qui est quelqu'un c'est un conflit récent, soit ça date depuis plus longtemps, de l'animosité en vous. Ça, c'est la mort spirituelle, de l'amertume. Certains ne dorment pas à cause de l'amertume qu'ils ont vis-à-vis de quelqu'un. Mais si je prends par la foi ce que la vie éternelle m'a communiqué, à savoir pardonner à vos ennemis, si par la foi je prends ma croix et j'accepte cette vérité comme étant la mienne, et que j'accepte de pardonner à ceux qui m'ont offensé, la vie va engloutir la mort. L'amertume, synonyme de mort, va être noyée par la vie éternelle parce que je vais pardonner à mon prochain. Il va se passer quelque chose dans ma vie. Vous voyez, c'est ça en permanence la vie chrétienne en réalité. Tu parlais tout à l'heure des personnes qui ont des tempéraments colériques, sanguins, phlegmatiques ou qu'est-ce qu'il y avait encore, mélancoliques. Lorsque la vie de Christ se manifeste, ces tempéraments-là sont engloutis par la vie de Dieu. Et le fruit de l'esprit, que sont la maîtrise de soi, la patience, la longanimité, l'espérance, toutes ces choses-là vont prendre le dessus parce que la vie de Christ va engloutir la nôtre. Évangéliser, par exemple, ça nous concerne pas, mais si on regarde ce monde, qu'est-ce que le monde a besoin? Ils ont d'abord besoin que les individus soient transformés par la puissance du Saint-Esprit, ce qu'on appelle une conversion. L'évangélisation, c'est permettre à la vie d'engloutir ce qui est mort. Annoncer l'Évangile, c'est permettre à la mort d'être éradiquée et éloignée dans le cœur de certains. Donc ça, c'est un moyen aussi de permettre l'engloutissement de ce qui est mauvais par le bien. Vous pouvez aussi servir les autres. Servir les autres, c'est une manière d'engloutir la solitude, d'engloutir la peine. Lorsqu'on va servir les autres et servir ceux qui sont dans le besoin, c'est une manière de mettre la vie devant la mort. Paul nous encourage aussi à racheter le temps. Vous savez, je méditais là-dessus et je me disais, racheter le temps, c'est la meilleure façon d'engloutir la vanité. Parce que quand on passe son temps à faire n'importe quoi, la vie est vaine. Même si ce sont des choses qui en soi ne sont pas forcément répréhensibles. On en parlait hier soir avec au temps pour les hommes, et on parlait de la vanité de la vie et nos différents emplois du temps et à quoi nous occupons nos journées. Mais lorsque nous rachetons le temps, nous engloutissons la vanité. Ça, c'est une manière de vivre la victoire en Jésus-Christ. Marcher par la foi, c'est engloutir l'incrédulité, engloutir le défaitisme, le découragement, la déprime. Vous voyez, il y a plein de moyens dans notre vie de dire « Seigneur, la vie n'est pas ce que j'aurais voulu, la vie n'est pas toujours facile. » Tout comme Paul, il ne pouvait pas retirer les persécutions qu'il traversait, il ne pouvait pas retirer les emprisonnements, il ne pouvait pas retirer les déceptions de la part de certaines personnes qu'il avait auparavant servies. Il ne pouvait pas enlever tout ça. Mais qu'est-ce qui lui permettait d'avancer? C'est que sa vie, sa propre vie, son être intérieur, plus tout ce qu'il expérimentait à l'extérieur, était englouti par les promesses de Dieu, englouti par le Saint-Esprit, englouti par la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu écrire « Christ ne m'a jamais abandonné ». Vraiment, ce verbe « engloutir », j'ai envie de le répéter 100 fois aujourd'hui. C'est que ma vie soit engloutie par la sienne. Non pas que ma vie disparaisse. Je suis encore là. Je ne suis pas délivré de ce corps de mort encore. En revanche, ce corps de mort peut être englouti par la vie de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va faire la différence. Vous savez, Paul a aussi écrit au verset 17 et 18 de 2 Corinthiens 4, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Soyons engloutis par les choses éternelles. Les choses visibles, elles sont là. Et des fois, le diable ou ses démons les mettent devant notre nez. Parfois, la chair nous les met devant notre nez. Parfois, ce sont les autres qui mettent ces choses-là devant notre nez. Elles sont là. C'est pas la peine de vivre dans le déni. Elles sont là. Mais elles peuvent être englouties par la parole de Dieu dans ma vie, par la puissance de Dieu au travers de mon obéissance par la foi. Que Dieu vous bénisse.